Je suis en compagnie aujourd'hui de Natacha. Natacha qui est la traductrice, entre autres, de Dirty Secrets. Bonjour Natacha.
Bonjour Olivier.
Donc tu m'as dit que tu n'étais pas traductrice que de Dirty Secrets. Donc on va commencer par ton œuvre et puis après on parlera un petit peu de toi.
D'accord. Alors, mon œuvre, je travaille pour la boîte à eux, qui est une petite maison d'édition que Ludovic Papeis a lancée. Et il m'a proposé de travailler d'abord sur Sweet Agatha et ensuite Dirty Secrets, qui sont deux jeux indies.
Indies.
Qui font partie de la catégorie des jeux de rôle indépendants.
Est-ce que c'est vraiment un jeu de rôle ou est-ce que ça se rapproche plus des jeux narratifs comme on en voit actuellement?
Oui, en effet, c'est plus dans la mouvance des jeux narratifs, comme on voit de plus en plus d'ailleurs en convention ou dans les festivals.
Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette traduction de jeux de rôle?
Alors, je suis rôliste et un jour, j'étais en convention et on m'a proposé de travailler, de faire de la traduction de jeux de rôle. Et je me suis dit, pourquoi ne pas concilier donc, mes deux passions et j'ai commencé et finalement, je me suis prise au jeu.
Tu es rôliste, mais quels sont les jeux de rôle que tu pratiques?
En ce moment?
Non, on va dire que tu as pratiqué et que tu pratiques maintenant.
Oh, beaucoup de grands classiques. Mes préférés, en l'occurrence Star Wars version D6 et Cops, que j'adore. J'aime aussi Hollywood, qui est un jeu qui est sorti, qui est un jeu français, qui est sorti il y a quelques années et qui n'est pas très connu, hein, mais qui évolue dans le même univers que Dirty Secrets, puisqu'ils s'inspirent tous les deux du genre hard-boiled. Bon, c'est pas la même période, mais tous les deux s'inspirent du noir.
Hard-boiled, donc
les polars comme le Faucon Maltais, Dashiell Hammett.
D'accord. Donc c'est le jeu de rôle qui t'a amené à...
À
la traduction.
Bien que mon cursus universitaire...
On peut dire que tu es une professionnelle de la... De la langue
de
anglaise.
La langue de Shakespeare, oui, tout à fait. Oui, j'ai étudié l'anglais à la fac et j'ai quand même donné. J'étais quand même chargée de TD en traduction avant de passer aux choses sérieuses. Donc la traduction, à proprement parler.
D'accord.
Voilà.
Tu me parles de convention, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, moi qui ne suis absolument pas très proche du jeu de rôle. J'ai un a priori qui un petit peu le jeu de rôle c'est un peu mou, ça se vend pas trop, c'est pas très d'actualité. En l'occurrence, la boîte à eux, on en entend beaucoup parler aujourd'hui.
Oui.
Il sort beaucoup de choses et donc ton expérience à toi, c'est que le jeu de rôle n'est pas mort.
En tout cas, dans mon cercle d'amis et pour moi personnellement, non, le jeu de rôle n'est pas mort. Après, la santé du secteur rôlistique, je la connais pas si bien que ça. Mais quand je vais en convention et quand je participe à des festivals, je m'aperçois qu'il y a toujours du jeu de rôle possible.
Donc le jeu de rôle n'est pas mort.
Non, le jeu de rôle n'est pas mort. Moi, je ne crois pas à la mort du jeu de rôle. Hein, je crois plutôt à son évolution.
Oui.
C'est-à-dire que je joue à des classiques. Et c'est vrai que j'apprécie d'avoir un bon MJ qui dirige une table d'amis. Mais ce que j'apprécie encore plus dans les jeux que je traduis et dans les jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer en convention, les nouveaux jeux de type narratif, c'est une plus grande liberté. Et bon, je vais peut-être être brûlée comme hérétique par les autres rôlistes, mais je suis une... Je ne suis pas particulièrement attachée aux règles, au système très mécanique, bien huilé et très précis. Par exemple, Rollmaster, pour moi, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu donc, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres, de choses, qui essaient de se rapprocher bizarrement au mieux de la réalité. Ben, pour moi, c'est l'antithèse du jeu de rôle. Enfin, c'est pas du tout ce que j'apprécie dans le jeu de rôle. Voilà. Et visiblement, je ne suis pas la seule, puisque ces jeux sont en plein essor.
Et toi, ton travail, alors, en revenant un petit peu à la traduction, est-ce que c'est compliqué de traduire un jeu de rôle?
Dans une certaine mesure, oui, ça l'est. Je veux pas dire que c'est absolument simple. C'est comme un casse-tête, en fait, j'ai envie de dire, parce que je suis passionnée de jeu, hein, et pas passionnée particulièrement de casse-tête à proprement parler, mais pour moi, la traduction, c'est un casse-tête. Et le but, c'est de d'être le plus fidèle. Mais, enfin, c'est. En fait, vous connaissez peut-être enfin, ceux qui font de la traduction connaissent le proverbe qui dit on peut avoir une femme belle, mais qui ne sera pas fidèle, ou une femme fidèle, mais qui ne sera pas belle. En fait, la traduction, c'est ça. Il faut trouver le juste compromis entre la fidélité et la beauté. Voilà. Oui, je sais, c'est tordu. Mais
Mais
c'est
vous,
ça.
les profs, vous êtes tordus.
Ouais, je sais, je sais. Donc, oui.
Est-ce que par rapport à ma question, en fait, est-ce que par rapport à une œuvre littéraire plus classique, il y a une différence entre. Parce qu'il va y avoir dans un jeu de rôle des mécanismes de jeu. Est-ce que ça change les choses par rapport à la traduction? Est-ce que tu y penses quand tu vas faire ta traduction? Ou alors est-ce que ça change rien et qu'en fin de compte, que ce soit un jeu de rôle ou une pièce de théâtre ou un roman, c'est pareil. Enfin là, en l'occurrence, un roman, ça peut être pareil.
Alors, c'est en général dans un jeu de rôle, il y a toujours une partie plus romancée, c'est-à-dire à la partie une partie littéraire à proprement parler. C'est une partie, ça peut être une petite nouvelle pour décrire l'univers. Je pense à Annalise qui commence par une nouvelle épistolaire. Ou bien, enfin, il y a toujours des passages littéraires, plus littéraires, et le passage sur les règles est forcément beaucoup plus carré, et puis on retrouve le même type de vocabulaire à peu près dans tous les jeux de rôle. Mais il y a des mots, alors c'est ça le problème aussi dans le milieu du jeu de rôle, qui n'ont pas été traduits. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir en anglais. Et pour une traductrice, laisser un terme anglais, c'est un aveu d'échec.
Tu veux dire qu'on peut looter, c'est ça?
Oui, voilà un jargon franglais. Bien sûr que dans ma vie tous les jours, à l'oral, je l'emploie, et dans ma vie de rôliste aussi, mais à l'écrit, pour moi, c'est un vrai aveu d'échec que de laisser, par exemple, freeform, ou ouais, non, des termes comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu trouver qui était difficile à traduire? Ouais, non, je pense à freeform, que j'ai pas trouvé de traduction. Enfin. Je l'ai trouvé tel quel dans le milieu du jeu de rôle.
Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un jeu comme Dirty Secret ou Sweet Agatha d'un Cthulhu ou d'un.
Ah.
Alors, je prends cet
Oui.
exemple-là parce que c'est un exemple que je connais.
Ah oui.
Donc, on a une fiche de personnage, on lance des dés pour savoir si notre action a réussi.
Ouais.
Alors, comment ça se passe, un jeu de rôle narratif?
Alors, il se trouve que dans Sweet Agatha et Dirty Secrets, ainsi que dans le jeu que je suis en train de traduire encore pour la boîte à eux, qui s'appelle Analyse, il n'y a pas de maître de jeu. Il y a une interaction entre les joueurs que le jeu définit, mais pas de maître de jeu. Donc, en général, un des joueurs incarne le protagoniste, que le reste du groupe fait avancer, et un autre joueur à la même table, à tour de rôle, incarne le reste de l'univers, les PNJ, ce qui se passe.
Explique-nous d'abord Sweet Agatha et puis ensuite
Dirty
Dirty Secrets en parlant bien dans ton micro.
Pardon, tu m'entends pas là en fait?
Si, mais c'est toujours un petit peu le problème.
D'accord, oui, je bouge. Alors, dans Sweet Agatha, il y a deux joueurs. Donc, un joueur qui s'appelle le lecteur et un joueur qui s'appelle la vérité.
C'est exclusivement un jeu à deux joueurs.
C'est un jeu à deux joueurs, narratif, oui. Donc, il y a des indices qu'on choisit ensemble en début de partie et qu'on va répartir au fur et à mesure des scènes. Il y a 10 scènes. Voilà. Donc, le lecteur, c'est celui qui va incarner l'enquêteur, celui qui part à la recherche d'Agatha, car Agatha a disparu. Voilà. Après, l'histoire prend la forme que vous souhaitez. Les règles sont assez libres, dirons-nous. Il y en a quelques-unes, mais on vous explique que vous pouvez très bien aussi vous en passer. C'est une histoire à construire à deux, à partir d'un carnet qui explique qu'Agatha a disparu et qu'il faut la rechercher.
Et tout est possible. Je veux dire, est-ce qu'on peut rejouer l'histoire une fois en la retrouvant, une fois en la retrouvant pas? Est-ce qu'il peut se passer n'importe quoi? Ou alors c'est quand même un chemin qui est quand même assez tracé et il n'y a pas beaucoup d'arborescence?
Alors, ça c'est arborescence, c'est un terme informatique ça. Alors en fait, il y a un certain nombre d'indices. En fait, il y en a, et on fait son choix parmi ce nombre d'indices. D'accord. Donc effectivement, si tu choisis... mettons, dans une partie, tu choisis 10 indices, 10 indices, et dans une partie, 10 autres. Déjà, ça offre des possibilités différentes. Et oui, tu peux rejouer et finir par la retrouver, par ne pas la retrouver, par la retrouver morte. Enfin, les règles.
Et là, en l'occurrence, c'est, tu décides, toi, de la retrouver ou pas? Ou est-ce que le jeu... est-ce que l'histoire que tu te racontes, est-ce que tu choisis la fin ou pas?
Tu choisis la fin, mais vous êtes deux.
Donc, vous choisissez la fin. Ah, c'est pour ça que le mot protagoniste prend tout son sens. Mm. D'accord. Alors, ça, c'est suite à l'état. C'est paru l'année dernière, je crois. En 2010 ou en 2009
C'est paru en 2010, oui.
En 2010. Et cette année, c'est tout neuf, tout chaud, d'Artistic Secrets.
Ouais.
Je crois que ça se joue à un peu plus, de 2 à 4.
En fait, de 3 à 6. Tout dépend du format, parce qu'il y a 3 formats de parties possibles, et tout dépend du format que tu choisis. Si tu prends le format nouvelle courte, c'est 3 ou 4 joueurs, et ça monte, donc nouvelle, toute simple, plus 2 joueurs, et roman, là tu peux monter jusqu'à 6.
Et le principe est le même,
C'est juste la longueur de la partie en fait, qui varie.
Mais par rapport à Suite Agatha, le principe du jeu... Et reste le même?
Alors, pas tout à fait, non. Il y a plus de règles, là. Mais on part du... on a également un enquêteur. Il se trouve qu'on crée l'enquêteur. On crée autant de personnages qu'il y a de joueurs à la table au début de la partie. Et l'enquêteur, en incluant l'enquêteur. Et il y a un seul joueur qui va jouer l'enquêteur toute la partie. Le reste des joueurs vont se partager donc, à tour de rôle. Le rôle le rôle de l'univers, enfin, de ce qui va rentrer en conflit, disons, avec qui va se mettre sur le chemin de l'enquêteur.
D'accord.
Voilà.
Ce qui veut dire que la personne qui crée l'histoire, les joueurs qui sont pas enquêteurs créent l'histoire. Enfin, comment ça se passe au niveau de l'articulation du déroulement des événements? Est-ce que l'enquêteur a un rôle plus important que les autres joueurs? Est-ce que c'est à lui de dynamiser un petit peu les choses et d'entraîner les autres, d'être un moteur pour les guider vers une solution possible?
Non, enfin, le livre conseille quand même de choisir pour incarner l'enquêteur un joueur qui soit à l'aise, enfin qui ne soit pas timide par exemple, et qui soit un petit peu un habitué du genre noir. Mais c'est pas une obligation absolue non plus, hein. Les autres joueurs ont quand même une influence ils peuvent participer en suggérant soit à la personne qui incarne l'autorité, enfin qui s'oppose directement à l'enquêteur, soit à l'enquêteur des choses. Ils peuvent donc lui donner des suggestions à suivre ou pas, et ils peuvent également faire appel d'une décision de narration. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne plaît pas à un joueur, qu'il trouve incohérent, même s'il n'est ni l'enquêteur ni l'autorité en face, eh ben, il peut poser son veto, il peut faire appel. Donc, il y a quand même quand le joueur n'est pas actif, il est quand même actif. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de délaissé à la table. Tout le monde participe à l'histoire.
D'accord.
Et il y a des dés, par contre.
Il y a des dés.
Oui, mais il y a des dés que pour la résolution de conflits. C'est-à-dire que quand l'enquêteur se retrouve face à une difficulté ou qui, enfin, je sais pas, moi par exemple, il essaye de rentrer dans une maison qui est gardée par un chien, voilà, hein, mettons, ou il essaye de suivre un personnage, ben le personnage peut s'en rendre compte également, donc là il y a conflit visiblement, et ça se règle, attention. Au doudo, qu'est-ce que c'est le doudo? Tu sais ce que c'est?
Un doudo, c'est comme le péroudo?
Ouais, c'est le péroudo est une variante du doudo. Ouais. Donc ça se joue au jeu de bluff avec les dés. Donc au fur et à mesure de la partie, on en perd. Et donc ça influe évidemment sur le pouvoir qu'on a. Voilà.
D'accord.
Bon, c'est un peu compliqué à expliquer exhaustivement, mais...
Et donc ça se passe dans un univers, c'est les années 50 ?
Alors non, ça se passe pas dans les années 50. Le principe de Dirty Secrets, bien que ça s'inspire du noir et du hard-boiled, c'est de placer donc, l'intrigue le plus proche de vous. C'est-à-dire que ça se passe dans la ville où vous habitez.
Mmh.
Et chronologiquement, une semaine avant le temps...
Avant aujourd'hui.
Avant aujourd'hui, voilà, exactement. À quelques jours près, hein, mais il faut que ce soit le plus proche de vous. Parce que l'auteur part du principe que les polars noirs, ils s'inscrivaient dans l'époque de leurs auteurs. Et donc, c'est une juste transposition que de jouer comme ça.
D'accord. Donc, on n'a pas besoin, en fin de compte, on n'a pas besoin de connaître cet univers. Il y a les ficelles un petit peu à connaître pour l'inspecteur, mais les joueurs ne sont pas...
Non, y a pas, on n'a pas besoin d'être un expert, d'avoir lu toute une bibliographie. De toute façon, il suffit d'avoir regardé quelques films. On a tous une idée de l'atmosphère qui peut régner. Enfin, et puis, il y a quand même une bonne introduction à ça dans le livre Dirty Secrets.
La durée de Dirty Secrets ?
Alors, suivant le format, donc j'ai déjà parlé du format, donc nouvelle courte, c'est 3-4 heures. Voilà. Avec, si on compte les règles. Hein. Au-dessus, je crois que c'est 4-5 heures, et puis, enfin, 4-6 heures, pardon. Et le roman, c'est, ça peut durer très longtemps.
Ça se joue en campagne ? C'est-à-dire on peut découper ça et jouer en plusieurs soirées ?
On peut jouer en plusieurs séances quand c'est en format roman, mais honnêtement, je pense... Non, pas en campagne. Par contre...
Campagne, c'est le découpage en fait en sessions, en différentes sessions.
En plusieurs sessions, on va dire. Oui, on peut y jouer en plusieurs sessions, surtout le format roman, je pense. Mais je pense, c'est quand même plus sympa si on peut tout jouer d'un coup. Et on peut se resservir de l'enquêteur. Ça, c'est ce qui peut amener un sentiment de campagne. En fait, l'enquêteur concret, au lieu d'en recréer un nouveau à la prochaine partie, on peut se resservir et du coup, le personnage prend de l'épaisseur finalement.
On n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de choses. On a l'habitude d'avoir des jeux où chaque joueur a un rôle précis.
Ouais.
Et là, je me rends compte en discutant avec toi que les joueurs sont l'histoire. Et en fait, on retourne un petit peu les choses par rapport au jeu de rôle classique où tu vas avoir un MJ qui va raconter une histoire à des personnages joueurs. Mmh. Et comme je le comprends, tu vas avoir des personnages non joueurs qui vont raconter une histoire à un personnage joueur. J'ai bien compris ?
Ah ouais, c'est à peu près ça. Et en fait, voilà, c'est exactement ça. Contrairement au jeu de rôle classique, enfin, je trouve qu'on est moins dans la cinématique, moins dans on subit moins quand même, hein, globalement, ce qui se passe. On est plus acteur, je trouve.
Ça veut dire qu'on peut pas jouer avec des gens qui sont un petit peu sur la réserve et qui vont un peu justement se mettre en retrait par rapport à l'histoire. Le jeu narratif, c'est qu'on va mettre de côté certaines personnes qui seront trop timides ou pas assez participatives.
Est-ce qu'on va les mettre de côté, dans quel sens ?
Est-ce qu'elles vont pas être exclues de ce genre de jeu ?
Je pense que déjà, quand on veut jouer à ce genre de jeu, à part si on nous a forcé...
Allez, viens !
Voilà !
Non, mais viens, c'est bien !
C'est qu'on est en recherche de quelque chose de différent. On est un peu pas fatigué du jeu de rôle classique, mais disons qu'on a envie de goûter à autre chose. Parce que bien que je connaisse beaucoup de maîtres de jeu, je n'aurais pas fâché mes maîtres de jeu précédents, qui étaient très bons, hein, certains étaient très très bons. J'ai aussi pu tomber sur de très très mauvais meneurs de jeu. Et c'est quand même... c'est moins aléatoire, c'est-à-dire que comme tout le monde crée l'histoire, et tout le monde participe activement, on ne subit pas. Voilà, c'est tout. On ne subit pas. Que ce soit bon ou mauvais, on ne subit pas.
Donc après, il y a des objectifs d'enquête?
Alors,
Comment ça se passe? Quel est le but en fait recherché?
Il y a toujours un crime initial. Et donc il faut résoudre ce crime initial. Sachant qu'il y a d'autres crimes qui viennent se greffer au crime initial, qui est un meurtre. Il doit y avoir un meurtre en fait, et il faut le résoudre.
Alors, explique-moi tout petit peu comment ça se passe.
Alors, on commence déjà par créer les personnages.
Oui.
D'accord ? Une fois qu'on a défini le format auquel on veut jouer.
Ça.
D'accord.
J'ai compris.
Ça, c'est bon. Donc ici, on joue une nouvelle cour. On crée deux personnages plus le nombre de joueurs. C'est-à-dire que si on est 3, on va créer 5 personnages. Si on joue une nouvelle, on va créer 6 personnages plus le nombre de joueurs. Durant tout au long de la partie. Hein. C'est tout au long de la partie. C'est-à-dire qu'on ne crée pas les 11 personnages au début. D'accord ? Au début, on n'en crée que le nombre de joueurs. Parce qu'on a la possibilité, en cours de jeu, de déclarer un personnage, c'est-à-dire dans créer un à partir d'un PNJ, par exemple, d'un personnage non-joueur. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a donc défini... on se passe les cartes personnages et chacun choisit un seul élément de la carte. C'est-à-dire qu'on a la catégorie... On a plusieurs catégories.
Les caractéristiques...
Ce que le personnage fait, son nom, son sexe et son origine ethnique. Voilà.
Donc ça ressemble un petit peu à un Kalavreski où chacun va donner un peu de soi pour créer un personnage qui correspondra à tous.
Exactement, c'est ça. C'est ça. Et à la fin, on repasse les cartes et on a le droit de changer une chose sur une carte. Donc une fois que tout le monde est créé, enfin que tout le monde a créé, qu'on a fini de créer les personnages et notamment l'enquêteur, et l'enquêteur commence l'enquête.
Et l'enquêteur a des caractéristiques identiques aux autres joueurs.
Ça peut être un privé, ou ça peut être un policier, ça peut être un anonyme. Enfin, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, je dis ça, mais quand on crée les personnages, on n'a pas vraiment le droit de. On n'a pas le droit de parler de ce qu'on met sur la carte. On n'a pas le droit de discuter.
Ouais, on peut pas. D'accord.
Oui.
C'est pas un travail collectif.
Non.
C'est vraiment chacun met un peu de soi et puis après on voit ce que ça donne.
Voilà, exactement. D'accord. Donc une séquence est lancée. L'enquêteur parle, décrit ses actions. Tout est vu du point de vue de l'enquêteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire les pensées d'un autre personnage. On peut pas dire. L'autorité, par exemple, ne peut pas dire. Stéphanie. Qui se méfiait de l'inspecteur. Non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. C'est l'enquêteur qui
se rend compte que Stéphanie
se méfie de lui. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, tout se passe pour le mieux. Enfin, l'enquête progresse avec, sur les suggestions des conseillers, donc des joueurs non actifs, et du fait de l'enquêteur, jusqu'à ce que, évidemment, l'autorité et l'enquêteur rentrent en conflit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord, il se passe quelque chose, comme j'ai dit, une filature, n'importe. À ce moment-là, donc on passe au doudo, donc au jeu de bluff. Donc c'est un conflit, on enchérit, quelqu'un perd les enchères ou les gagne. Celui qui gagne l'enchère résout le conflit, c'est-à-dire qu'il a la main sur ce qui se passe, il explique clairement ce qui se passe, et normalement, ça clôt. Un chapitre. Quand on se retrouve face à un conflit, on le voit en général, on n'a pas de doute sur le fait qu'il y a un conflit d'intérêts visiblement entre l'univers hostile à l'enquêteur et l'enquêteur. Et donc ça, soit l'autorité et l'enquêteur le reconnaissent et le savent et disent voilà, il y a conflit, je déclare le conflit, soit c'est les autres conseillers qui disent bah, là, vous voyez bien qu'il y a conflit, donc il y a conflit. Mais quoi qu'il arrive, c'est soit l'enquêteur qui gagne le conflit, soit l'autorité qui gagne le conflit, qui décrit la fin, donc l'issue du conflit.
D'accord. Et donc, en fin de compte, le but du jeu, c'est d'arriver à résoudre les crimes qui ont été...
Commis.
Voilà.
Donc des crimes qui peuvent être des meurtres, un vol, un enlèvement, du chantage. Voilà. Il faut les résoudre, sachant que ce ne sont pas les joueurs qui décident de qui a commis le crime.
Et analyse ?
Analyse.
Alors, analyse, est-ce que c'est déjà sorti, est-ce que c'est un projet qui est en cours encore outre-Atlantique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà sorti ?
C'est déjà sorti. C'est déjà sorti. C'est Un jeu de rôle sous forme PDF. Et pareil, qui fait partie de la catégorie des jeux indépendants. Mais bon, Ludovic m'a dit, alors une histoire de vampire, ça te dit? Non, ça te dit pas. Hein. Bien sûr que si, ça me dit. Voilà, donc je suis une fille, hein, classique, j'aime bien les histoires de vampires, ça me plaît.
C'est l'effet Twilight.
Oui, pas seulement, mais oui, en partie.
Mais tu as 15 ans aussi, alors. Je
Oui,
suis une
c'est
fille,
ça.
j'ai 15 ans, j'aime bien les vampires.
Mais tu rajoutes tous, c'est bon. Voilà, c'est ça. Non, mais oui, mais c'est l'effet vampire, oui, c'est ça. Oui,
Ok,
donc
donc c'est une
c'est.
histoire de vampire,
Ouais.
Annalise.
Analyse, donc c'est un jeu de rôle, pareil. Un peu différent.
Est-ce qu'il y a des dés dans Analyse?
Oui, il y a des dés.
Et des règles?
Il y a des règles.
D'accord, donc ça se rapproche un petit peu plus des jeux de rôle traditionnels qu'on connaît, que un peu tout le monde peut connaître.
Mais il y a des dés dans Dirty Secrets.
Oui, enfin tout le monde connaît peut-être pas le Perudo, mais.
Ouais, c'est vrai. Et il n'y a pas de MJ dans Analyse non plus.
D'accord.
D'accord, c'est le même. Enfin, c'est pas tout à fait pareil que Dirty Secrets quand même. Là, chacun a son personnage. Mais comme les intérêts de chacun sont différents, il va falloir négocier. Voilà. Et le but, c'est moins de développer des personnages que de produire une histoire qui s'inscrive donc dans la tradition du roman d'horreur gothique. Voilà. C'est ça le but d'analyse, le but
Et comme
premier.
Dirty Secret, ça se passe de nos jours.
Non, là, il y a une liberté de cadre absolue, c'est-à-dire qu'on peut le placer dans l'univers que l'on souhaite, à l'époque que l'on souhaite. C'est les joueurs qui délimitent le cadre en début de partie. Et ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. La nature du vampire aussi, hein, est libre. C'est-à-dire que ça peut être un vampire sort de sang premier, enfin, au sens littéral, hein, c'est-à-dire voilà, la bête qu'on connaît tous, un peu kitsch. Ou bien une horreur un peu plus diffuse, comme on peut retrouver dans d'autres jeux. Cthulhu, notamment.
Donc ça c'est en prévision pour fin d'année ou plutôt l'année prochaine?
Plutôt fin d'année, oui, je pense.
D'accord. Ouais, il a une.
Tout dépend de la traductrice, je crois, je crois.
Ah bah peut-être l'année prochaine alors.
Voilà, c'est ça. 2012, hein, facile. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dites sur le jeu de rôle narratif, c'est vrai, mais en même temps, je ne suis pas experte en la matière, donc.
Est-ce que le jeu de rôle narratif, est-ce que tu as d'autres exemples est-ce que la boîte à œufs lance la mode, enfin cette tendance? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà et qu'il est en train de reprendre, de l'officialiser avec justement une ligne éditoriale qui est très propre, très belle, avec une forme qui est vraiment sympathique et qui va peut-être permettre, puisqu'on parlait PDF tout à l'heure,
Ouais.
de mettre le jeu narratif à portée de tout le monde.
Oui, je pense que c'est vraiment ça l'intention de la boîte à œufs. Enfin, c'est de donc c'est un phénomène qui est assez répandu outre-Atlantique, mais qu'on voit peut-être moins en France. Et le fait de donc c'est quand même une barrière la langue, il faut être honnête.
Surtout dans le jeu de
Donc
rôle.
oui, voilà. Même si beaucoup de rôlistes lisent en anglais. Ça reste quand même difficile. Disons que c'est plus agréable de lire dans sa langue maternelle. Donc oui, je pense que là, l'intention, c'est de ramener donc cette tendance outre-Atlantique et de trouver son public. Hein. Enfin, je pense qu'il y a, enfin, il n'y a pas trop de soucis de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a vraiment des gens comme moi, hein, en rôlistes, qui sont en recherche de ce genre de jeu.
Et une question que je ne t'ai pas posée,
Oui.
ça se destine à un public plutôt adolescent, plutôt jeunes adultes, adultes. Je pense que c'est un peu moins, un peu plus difficile pour les enfants de rentrer dans ce genre d'univers.
Oui, je pense que ça s'adresse à un public un peu plus averti de jeunes adultes, voire un peu plus mûrs que ça même. Ouais, je pense. Enfin, je vois, j'imagine mal des ados. C'est possible, hein, mais jouer, enfin, s'immerger vraiment dans ce genre d'univers.
C'est le côté, je n'ai pas de cadre, je n'ai pas de règles.
Exactement. Ouais.
C'est ça qu'il faut qu'il y ait une directrice et il faut les entraîner.
J'irais même plus loin. On peut y jouer quand on est absolument néophyte en matière de jeu de rôle, mais je pense qu'on est plus à l'aise si on a déjà une certaine expérience. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce que faut quand même prendre beaucoup la parole et se libérer, enfin, de la feuille de personnage, quoi. On est complètement, on l'a, les chiffres rassurants de nos caractéristiques, on les a plus sous les yeux. En général, ça se résume à justement les caractéristiques les plus simples, un nom, une fonction, quelque chose, mais enfin, on n'a plus agilité, dextérité, c'est plus force, voilà quoi. Donc il faut se débrouiller.
Ça veut dire que en fin de compte, le personnage que tu es en train de jouer est un peu plus proche de toi. Tu vas peut-être y mettre un peu plus de toi que ce que tu vas mettre dans un personnage où tu auras des caractéristiques bien définies. Peut-être.
Peut-être. Tout dépend.
Donc tu prends un petit peu plus de risques.
Ouais, alors en tout cas, la prise de risque est plus grande. Je pense que c'est assez révélateur de jouer à ce genre de jeu.
D'où un public un petit peu plus averti que...
Oui.
D'accord, c'est un pari qui est un peu compliqué, parce que c'est déjà difficile de... Le jeu de rôle, c'est déjà quelque chose d'un peu particulier, c'est en plus...
Enfin, jouer à ce genre de jeu, c'est un pari, une sorte de pari risqué. D'ailleurs, dans l'analyse, il dit clairement qu'un des buts, si on décortique un petit peu le jeu, ça, on en vient à la maîtrise tout simplement de pulsions destructrices. C'est-à-dire que c'est la façon dont les personnages vont gérer leur rapport à l'inconnu, à ce qui les attend, quoi.
D'accord. Et il y a en fin de compte, il y a une gradation entre les différents épisodes. On parlait de Suite Agatha, il a peut-être commencé par ce qui était le plus accessible.
Grand public, c'est très grand public.
Et puis là, il est en train d'arriver petit à petit à quelque chose qui est plus, qui est plus difficile à aborder.
Ça, je pense que oui, qu'Analyse est clairement plus difficile à aborder que Suite Agatha. Suite Agatha, j'ai beaucoup de potes qui l'ont acheté pour essayer de convertir leur copine non rôliste à la base et pas spécialement joueuse pour les amener subtilement à jouer.
Allez, viens.
Voilà, exactement, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, c'est une bonne approche, je pense.
Et tu m'as parlé tout à l'heure, enfin, on a parlé tout à l'heure de Parsley.
Parsley Games, oui.
Parsley Games, tu connais est-ce que d'abord tu t'es mêlé de ça aussi ou
J'ai eu l'occasion de relire le texte, oui.
D'accord, tu peux expliquer en deux mots en quoi ça consiste, pardon.
Alors, pour les vieux de la vieille, c'est...
Pour les gens qui étaient nés avant 1980, les autres, vous pouvez écouter autre chose.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est la transposition en jeu, une sorte de jeu d'apéritif, un jeu party games, quoi. Des jeux textuels qu'on avait sur ordinateur.
Donc là, on quitte l'univers du jeu narratif de rôle. C'est quelque chose de plus court et plus léger.
Plus court, plus léger, plus délire. Hein. T'as un maître de jeu, enfin quelqu'un qui joue le rôle de l'ordinateur et qui
avec
doit...
des dés.
Il y a pas de dés, non. Tu explores. Mars. Tu donnes des commandes. Tu aspectes fleurs, cueillir fleurs. Tu sais, tu dois faire des phrases comme ça, comme tu rentrais dans ton ordinateur, en fait.
D'accord. Ah donc on revient un petit peu à quelque chose de plus classique avec un maître du jeu et des actions qui sont résolues avec des commandes très, très basiques.
Très basiques, mais c'est très rigolo, l'ordinateur, celui qui incarne l'ordinateur, donc il doit parler comme un ordinateur, sauf qu'il peut rajouter un peu d'ironie, de sarcasme, etc. Et puis si, bien sûr, tu donnes une commande qui tombe à côté de la plaque, il a le droit de se foutre de toi, hein. Et puis comme on y joue à plusieurs, ça peut tourner au grand n'importe quoi et à la fin t'as un score mais qui a très peu d'importance finalement, c'est plus le délire du jeu qui compte. Voilà.
Ouais, un petit peu de la même façon que pour les autres, le jeu de rôle narratif, c'est pas le but qui compte, c'est plutôt
le voyage. C'est ça.
Tout à fait.
Voilà.
Très bien.
Merci Olivier.
Ah, on a fini.
Ah bah non. Tu vois quelque chose à ajouter?
Non. Bon bah merci Natacha.
Au revoir.